Mon père, l'empereur Padishah, avait 72 ans mais n'en paraissait pas plus de 36 lorsqu'il décida la mort du duc Leto et la restitution d'Arrakis au Harkonnen. Lorsqu'il paraissait en public, il portait rarement autre chose qu'un uniforme de Sardaukar et un casque noir de Berseg avec le lion d'or impérial en cimier. L'uniforme rappelait à tous quel était le principal instrument de son pouvoir. Mais il ne se montrait pas toujours aussi désagréable. Lorsqu'il le voulait, il pouvait faire preuve de charme et de sincérité. Mais les derniers temps, j'en vins à me demander si quoi que ce fût dans sa personne correspondait aux apparences. À présent, je pense que c'était un homme qui luttait constamment contre les barreaux d'une cage invisible. Il ne faut pas oublier qu'il était empereur, qu'il représentait une dynastie dont les origines se perdaient dans le temps. Mais nous lui interdisions d'avoir un fils légal. N'est-ce pas là la plus terrible défaite que subit jamais un chef? Ma mère a obéi à ses sœurs supérieures, au contraire de Dame Jessica. Laquelle s'est montrée la plus forte? L'histoire, déjà, a répondu. Extrait de « Dans la maison de mon père » par la princesse Irulan. Jessica s'éveilla dans l'obscurité et perçut les mouvements des Fremen autour d'elle, en même temps que l'odeur âcre des distilles. Son sens du temps lui apprit que la nuit approchait au dehors. Mais la caverne demeurait plongée dans les ténèbres, isolée du désert par les plaques de plastique qui retenaient l'humidité des corps. Elle s'était abandonnée au sommeil total après sa grande fatigue, ce qui semblait suggérer qu'elle acceptait inconsciemment la sécurité au sein de la troupe de Stilgar. Elle se retourna dans le hamac qui avait été adapté à sa robe, se laissa glisser jusqu'au sol et chaussa ses bottes de sable. « Il ne faut pas que j'oublie de desserrer l'attache de mes bottes afin de faciliter la fonction de pompe de mon distille, » songea-t-elle. « Il y a tant de choses que je ne dois pas oublier. » Elle avait encore dans la bouche le goût du repas du matin, cette chair d'oiseau mêlée de céréales et de miel d'épices et roulée dans une feuille. Le repas du matin. Le temps ici était inversé. Le jour correspondait au repos, la nuit à l'activité. La nuit cache, la nuit est plus sûre. Elle se rendit dans un renfoncement du rocher pour détacher sa robe des crochets de fixation du hamac. Elle se démena dans le noir jusqu'à ce qu'elle eût trouvé le haut du vêtement. Elle se demandait comment faire parvenir un message au Bene Gesserit. Comment informer le sanctuaire d'Arrakin de leur sort? Plus loin dans la caverne, des brilleurs furent allumés. Entre les silhouettes en mouvement, Jessica aperçut Paul. Il était déjà habillé. Son capuchon rejeté en arrière révélait le profil aquilin des Atréides. Il s'était comporté de façon étrange, songea-t-elle. Il avait été absent, comme surgi d'entre les morts. À peine conscient de son retour, les yeux mi-clos, vagues. Cela lui avait rappelé ce qu'il lui avait dit à propos de leur régime saturé d'épices, qu'il provoquait l'accoutumance. « Cela aurait-il d'autres effets ?» se demanda-t-elle. Il a dit que cela avait quelque rapport avec ses facultés de prescience, mais il est resté étrangement silencieux quant à ses visions. Stilgar surgit de l'ombre à sa droite et s'avança vers les brilleurs. Elle remarqua sa démarche prudente, féline, et la façon dont ses doigts couraient dans sa barbe. Puis la peur jaillit en elle à l'instant même où ses sens lui révélaient les tensions qui entouraient Paul, les gestes raides des hommes, les positions rituelles.
« Ils ont mon soutien !» gronda Stilgar.
Jessica reconnut celui qui l'affrontait. Jemis. Les épaules de l'homme étaient roides. Il était plein de fureur. Jemis, celui que Paul a terrassé, songea-t-elle.
Tu connais la règle, Stilgar, dit Jemis. Qui la connaît mieux que moi? Rétorqua Stilgar,
et elle lut l'apaisement dans sa voix, le désir de calmer.
Je choisis le combat, gronda Jemis.
Jessica s'élança dans la caverne et agrippa le bras de Stilgar.
Qu'y a-t-il?
C'est la règle de l'Amtal. Jemis exige la preuve que vous êtes ceux de la légende.
« Elle doit être défiée, » dit Jemis.
Si son champion triomphe, alors c'est la vérité. Mais il est dit, son regard courut sur ceux qui se pressaient autour de lui, qu'elle ne choisira pas de champion parmi les Fremen. C'est donc qu'il l'accompagne.
Il veut un combat singulier avec Paul, se dit-elle. Elle lâcha le bras de Stilgar et esquissa un pas en avant.
Je suis mon propre champion, dit-elle. Le sens est assez simple pour « Vous ne nous dicterez pas nos règles », lança Jemis. « Si vous ne donnez pas d'autres preuves que celles que j'ai vues. Ce matin, Stilgar a très bien pu vous souffler ce qu'il fallait dire. Il a pu mettre dans votre esprit les paroles qui devaient nous tromper, et vous n'avez eu qu'à les répéter.
« Je peux me défendre », songea-t-elle. Mais cela s'opposerait à leur interprétation de la légende. Et de nouveau, elle se demanda de quelle manière on avait pu déformer l'œuvre de la Missionaria Protectiva sur cette planète. Stilgar la regardait. Lorsqu'il parla, ce fut d'une voix basse, mais assez forte, cependant, pour qu'elle fût perçue de ceux qui les entouraient.
« Jemis est homme à nourrir une rancune, Sayadina. Votre fils l'a terrassé et... »«
C'était un accident !»
rugit Jemis. « La sorcellerie jouait son rôle dans le bassin de Tuono. Je vais le prouver maintenant. » « Et je l'ai terrassé moi aussi, » poursuivit Stilgar. « Par ce défi, Tahadi, il cherche aussi bien à prendre sa revanche sur moi. Il y a en lui trop de violence pour qu'il soit jamais un bon chef, trop de gafla, d'instabilité. Il prête sa bouche aux règles, mais son cœur est au Sarfa, à l'éloignement. Non, jamais il ne fera un chef de valeur. Je l'ai épargné jusque-là parce qu'il est un bon combattant, mais cette colère qui le creuse, le rend dangereux pour les siens.
« Stilgar !» gronda Jemis.
Et Jessica comprit ce que faisait Stilgar. Il essayait de provoquer la fureur de Jemis, de détourner sa colère. Il se retourna vers Jemis et de nouveau, elle perçut cette volonté de calme dans sa voix rude.
« Jemis, ce n'est qu'un enfant. Il...
Tu l'as traité d'homme ?
Et sa mère a dit qu'il avait affronté le Gomjabar. Sa chair est ferme et gorgée d'eau. L'homme qui a porté leur bagage a dit qu'il recelait des jolitres d'eau. Des jolitres ! Et nous continuons de boire l'eau de nos poches pendant que la rosée se forme sur leur peau. »
Stilgar se tourna vers Jessica. « Est-ce vrai ? Y a-t-il de l'eau dans vos bagages ?»«
Oui. »«
Des jolitres ?»«
Deux. » »«
Qu'entendiez-vous faire avec une telle richesse ?»«
Une richesse ? » pensa-t-elle.
Elle secoua la tête, consciente du froid soudain dans la voix de Stilgar.
« Là où je suis née, l'eau tombe du ciel et court sur la terre en rivière, » dit-elle. « Là où je suis née, les océans sont si vastes que l'on ne peut d'un rivage apercevoir l'autre. Je n'ai pas été éduquée dans votre discipline de l'eau. Jamais je n'ai dû penser ainsi. » Tout autour d'eux, il y eut comme un soupir. L'eau tombe du ciel. Elle court sur la terre.
Saviez-vous que parmi nous, il en est qui ont perdu l'eau de leur poche par accident et qui seront en péril avant que nous atteignions Taber cette nuit?
Comment aurais-je pu le savoir? Dit-elle. S'ils en ont besoin, donnez-leur l'eau que nous avons.
Est-ce là ce que vous entendiez faire avec cette richesse?
J'entendais sauver la vie.
Alors nous acceptons votre bénédiction, Sayadina.
« Vous ne nous achèterez pas avec votre eau, » dit Jemis. « Pas plus que tu ne détourneras ma fureur sur toi, Stilgar. Je comprends. Tu veux que je te défie avant même d'avoir prouvé mes dires. »
Stilgar lui fit face. « Es-tu décidé à proposer ce combat à un enfant, Jemis ?» Sa voix soudain s'était chargée de venin.
« Elle doit être défiée. Même si elle a mon soutien. J'invoque la règle de l'Amtal. C'est mon droit. »
Stilgar acquiesça. En ce cas, si le garçon ne t'abat point, c'est mon couteau que tu rencontreras ensuite. Et cette fois, je ne l'abaisserai point ainsi que je l'ai fait auparavant.
Vous ne pouvez faire cela, dit Jessica. Paul n'est que...
Vous ne pouvez intervenir, Sayadina, dit Stilgar. Oh, je sais que vous pouvez me vaincre comme n'importe lequel d'entre nous, mais vous ne pouvez venir à bout de tous à la fois. Et il doit en être ainsi. C'est la règle de l'Amtal.
Elle demeura silencieuse.
le regardant à la lueur verte des brilleurs, découvrant la raideur démoniaque qui avait tout à coup envahi ses traits. Puis ses yeux se portèrent sur Jemis, sur le froncement de ses sourcils, et elle songea « J'aurais dû voir cela avant. Il est du genre silencieux, il rumine, il travaille au plus profond de lui-même. J'aurais dû être prête. »
« Si vous frappez mon fils, dit-elle, vous devrez m'affronter. Je vous défie dès maintenant. Je vous abattrai dans un... Mère !»
Paul s'avança, posa la main sur son bras.
« Si je m'expliquais avec Jemis. »«
S'expliquer ?»
lança Jemis. Paul se tut. Il se détourna et le regarda. Il ne ressentait pas la moindre peur. Jemis lui semblait maladroit dans le moindre de ses mouvements, et la nuit précédente, il était tombé si vite. Mais Paul percevait encore le bouillonnement du nexus de la caverne. Il se souvenait encore de sa propre image, du couteau planté dans son corps. Les chemins de fuite de part et d'autre de cette vision avaient été si rares.
« Sayadina, » dit Stilgar, « il faut que vous reculiez vers... »«
Cesse de l'appeler Sayadina !»
s'écria Jemis.
« Cela reste encore à prouver. Elle connaît la prière ? Et alors ? Parmi nous, n'importe quel enfant la connaît, non ?»«
Il en a assez dit, » songea Jessica. « Je connais la clé. D'un mot, je pourrais l'immobiliser. » Elle hésita. « Mais je ne pourrais les immobiliser tous. »«
Alors tu vas me répondre ?»
dit-elle. Et elle mit un gémissement dans sa voix et un appel au dernier mot. Jemis la regarda avec crainte.
« Je vais t'apprendre la souffrance, »
reprit-elle sur le même ton.
« Souviens-toi de cela quand tu combattras. Ta souffrance sera telle que le Gomjabar, en comparaison, sera comme une joie. Tu te débattras de tout et...
« Elle essaie de m'ensorceler !»
s'écria Jemis. Il porta le poing droit derrière son oreille.
« J'invoque le silence sur elle !»«
Qu'il en soit donc ainsi, » dit Stilgar.
Il lança à Jessica un regard impératif. « Si vous parlez à nouveau, Sayadina, nous saurons que votre sorcellerie agit et nous vous rejetterons. » Et d'un signe de tête, il lui fit signe de se retirer. Des mains la prirent, la poussèrent sans douceur. Elle vit Paul séparé des autres, et Shiny au visage d'elfe, qui chuchotait à son oreille tout en montrant Jemis de la tête. Le cercle se forma. De nouveaux brilleurs furent amenés, qui, tous, irradiaient une clarté jaune. Jemis s'avança à l'intérieur du cercle. Il ôta sa robe et la tendit à un homme, dans l'assistance. Il n'était plus vêtu que de son distille, taché par endroits. Il pencha la tête vers son épaule, but au tube, puis se redressa et entreprit de défaire également son distille. Il le tendit avec précaution à la foule. Puis il attendit. Il n'avait plus que ses sous-vêtements. Ses pieds étaient étroitement enveloppés de tissu. Il tenait son Christ dans la main droite. Jessica observait Shiny, la femme enfant, qui aidait Paul et lui tendait un Christ. Il prit l'arme, en apprécia le poids, l'équilibre. Jessica songea qu'il avait été éduqué dans le prana et le bindu, le nerf et la fibre. Que le combat lui avait été enseigné à une école mortelle, par des hommes tels que Duncan Idaho et Gurney Halleck. Des hommes qui étaient devenus des légendes de leur vivant. Il connaissait les ruses Bene Gesserit et semblait confiant, assuré. « Mais il n'a que 15 ans, se dit-elle. Et il n'a pas de bouclier. Il faut que j'arrête ça. Il doit y avoir un moyen. » Elle leva les yeux et rencontra le regard de Stilgar. « Vous ne pouvez rien arrêter, » dit-il. « Vous ne pouvez pas parler. » Elle posa la main sur sa bouche et songea « J'ai instillé la peur dans l'esprit de Jemis. Peut-être cela va-t-il le ralentir. Si seulement je pouvais prier. » Prier, vraiment. Maintenant, Paul était seul à l'intérieur du cercle. Il portait la tenue de combat qu'il avait gardée sous son distille et tenait le Christ dans sa main droite. Ses pieds étaient nus sur le sol sableux. Idaho lui avait répété tant et tant de fois « Quand tu doutes du sol, reste pieds nus. » Et il entendait encore les paroles de Shiny.
« Après une parade, Jemis se porte sur sa droite. C'est une habitude que nous avons tous remarquée.
et il visera tes yeux pour te désorienter avant de frapper. Il se bat des deux mains. Prends garde lorsqu'il passe son couteau de l'une à l'autre. »
Mais si intense avait été son entraînement, jour après jour, heure après heure, qu'il lui semblait sentir par tout son corps le mécanisme de réaction instinctive que l'on avait imprimé en lui. Et il se souvenait des recommandations de Gurney Halleck. Le bon combattant au couteau doit penser simultanément à la pointe, à la lame et à sa garde. La pointe peut trancher, la lame peut percer et la garde peut aussi bien prendre au piège la lame de l'adversaire. Il regarda le kris. Pas de garde. Rien que l'anneau du manche pour protéger la main. Et il prit conscience, soudain, qu'il ignorait la résistance de la lame. Il ne savait même pas s'il était possible de la briser. Jamis s'avança sur la droite, suivant le cercle. Paul s'accroupit. Il pensait qu'il n'avait pas de bouclier. Alors que tout son entraînement au combat reposait sur la présence de cet invisible champ autour de lui, qui exigeait la plus grande rapidité en défense et une lenteur subtilement calculée pour l'attaque. En dépit des avertissements constants de ceux qu'il avait éduqués, il se rendait compte à présent que le bouclier faisait intimement partie de ses réactions.
Jamis lança le défi rituel.
« Puisse le couteau trancher et briser !»«
Alors la lame doit se casser, » pensa Paul.
Jamis, lui non plus, n'avait pas de bouclier. Mais il n'y avait pas été habitué. Paul regarda son adversaire. Son corps paraissait fait de cuir tendu sur un squelette desséché. Dans la lumière des brayeurs, son kris jetait des reflets laiteux. La peur monta en lui. Tout à coup, il lui semblait être seul et nu dans la clarté jaune, au milieu de ce cercle de Fremen. La préscience l'avait empli d'innombrables visions. Elle lui avait fait entrevoir les grands courants de l'avenir, les ressorts des décisions. Mais ceci était maintenant. La mort était présente dans un nombre infini de probabilités. En cet instant, n'importe quoi pouvait modifier l'avenir. Il suffisait que quelqu'un tousse, que son attention soit détournée. Par un changement de lumière, une ombre. J'ai peur, se dit Paul. Et il se mit à se déplacer en même temps que Jamis, autour du cercle, se répétant la litanie Bene Gesserit contre la peur. La peur tue l'esprit. Ce fut comme une eau fraîche. Il sentit ses muscles se dénouer. Il était calme, prêt. « Je vais baigner mon couteau dans ton sang, » dit Jamis. Et dans l'instant où il prononçait le dernier mot, il bondit. Jessica réprima un cri. Mais là où l'homme avait frappé, il n'y avait plus rien. Paul était maintenant derrière Jamis, qui offrait son dos à sa lame.
« Frappe, Paul, maintenant !»
hurla-t-elle dans son esprit. Il frappa. Avec une lenteur calculée, en un geste merveilleusement fluide, si lentement que cela donna à Jamis la marge dont il avait besoin pour esquiver, reculer et se porter sur sa droite. Paul battit en retraite, presque accroupi.
« Il faut d'abord que tu trouves mon sang, » dit-il.
Jessica avait décelé l'influence du bouclier dans les manœuvres de son fils, et elle comprenait soudain le danger que recelait cette arme à double tranchant. Les réactions de Paul avaient la vivacité de la jeunesse, et elles étaient le résultat d'un entraînement poussé à un degré inconnu des Fremen. Et cet entraînement se lisait dans les attaques, faites pour percer la barrière du bouclier qui repoussait les coups rapides, qui exigeaient de la ruse et un total contrôle. Paul l'a-t-il compris? Il le faut. Jamis s'attaqua de nouveau. Ses yeux avaient un éclat sombre. Un instant, son corps ne fut qu'une trace jaune dans la clarté des brilleurs. Encore une fois, Paul se déroba et riposta trop lentement. Et encore. Et encore. Et encore. Chaque fois, le coup arrivait avec une fraction de seconde de retard. Jessica s'aperçut alors d'une chose et elle espéra que Jamis, lui, ne l'avait pas vue. La défense de Paul était d'une terrible rapidité, mais à chaque parade, il prenait exactement la position qui lui aurait permis de dévier en partie le coup de son adversaire sur son bouclier.
« Votre fils jouerait-il avec ce pauvre fou ?» demanda Stilgar.
Puis il leva la main avant que Jessica ait pu répondre
et ajouta « Excusez-moi, il faut que vous gardiez le silence. »
Maintenant, les deux adversaires faisaient le tour du cercle, l'un en face de l'autre. Jamis pointait son couteau, le bras presque tendu. Paul, à demi accroupi, baissait le sien. Une fois encore, Jamis bondit, attaquant sur la droite, là où Paul esquivait. Au lieu de se dérober, Paul leva sa lame et l'utilisa pour contrer le coup de Jamis. Puis il s'effaça en pirouettant sur sa gauche, avec une pensée reconnaissante pour l'avertissement de Shiny. Jamis rompit vers le centre du cercle en frottant sa main où perlait le sang. Ses yeux agrandis étaient comme deux puits noirs, et dans la pâle clarté, ils se posèrent sur Paul avec une méfiance nouvelle.
« Ah, celui-là fait mal, » murmura Stilgar.
Paul s'accroupit, en garde, et ainsi qu'on lui avait enseigné, interpella son adversaire blessé. « Abandonnes-tu ?»«
Ah !» gronda Jamis.
Un murmure de colère monta de l'assistance.
« Du calme !» lança Stilgar.
« Le garçon ignore nos règles. »
Puis, s'adressant à Paul,
« Nul ne peut abandonner dans le Tahadi. La mort est sa seule conclusion. »
Jessica vit son fils se raidir, et elle songea, « Il n'a jamais tué un homme ainsi, dans un combat au couteau. Pourra-t-il le faire ?»